Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Isabelle Delannoy.
Est-ce qu'une autre économie est possible, envisageable, et maintenant ? Parce qu'on n'a plus le temps.
Isabelle Delannoy est ingénieure agronome et elle travaille sur le sujet de l'environnement depuis plus de 20 ans. Elle a notamment longtemps travaillé auprès de Yann Arthus-Bertrand. Elle a publié son livre Économie symbiotique fin 2017, dont j'avais beaucoup entendu parler. Elle y met en lumière des initiatives et des principes porteurs de solutions.
Je pense qu'on a la possibilité de faire face aux très grandes crises qu'on va avoir vers 2025-2030.
J'étais un peu partagée car ce mot de solution me semble problématique. Et puis, j'ai vu qu'Isabelle faisait partie d'un même groupe Facebook que moi qui traite des risques d'effondrement. Alors, j'étais curieuse d'en savoir plus sur sa vision et sur la façon dont elle fait cohabiter la lucidité sur l'état du monde et sur les changements enthousiasmants qui sont en cours.
Aussi dure soit la prise de conscience, la vie est longue.
Isabelle Delannoy, bonjour.
Bonjour.
Tu es ingénieure agronome de formation. Tu es spécialiste du développement durable. Je mets des guillemets autour de développement durable. On y reviendra, je pense. Et tu es auteur du livre « L'économie symbiotique ». Alors, j'ai voulu t'inviter dans le podcast parce que tu as une double casquette. Tu te dit collapsologue aussi avec des guillemets, et en même temps tu travailles sur des solutions émergentes qui ont donné naissance à ce livre sur l'économie symbiotique. Tu dis que la volonté de lucidité sur l'état du monde empêche peut-être aussi la lucidité sur cet autre phénomène d'émergence des piliers de résilience de notre société. Du coup, je voulais savoir en première question, quelles ont été dans ta vie, les grandes étapes qui ont constitué ou modifié ton regard sur le monde ?
Alors, mon Dieu. Oui, alors pour moi, cette double lucidité, elle est extrêmement importante. Et sur les grandes étapes, en fait, je pense que, c'est ce que je raconte dans mon livre, je pense que ça remonte très très loin. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je devais avoir 4 ans à peu près, mon père avait entendu à la télévision l'eau sera l'or bleu du 21e siècle. Et il a sorti ça dans le salon et ça m'avait vraiment frappé cette phrase. Donc je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Et donc il faut imaginer, hein, j'étais vraiment haute comme 3 pommes. Et il me dit, ça veut dire qu'elle sera aussi rare et chère que l'est le pétrole aujourd'hui. Et à ce moment-là, on était en pleine crise pétrolière. Même si moi je savais pas que c'était la crise pétrolière non plus, ce que je savais, c'est que on faisait très attention à l'essence qu'on mettait dans la voiture, etc. Et donc le pétrole, je savais ce que c'était l'essence, et c'était complètement fou pour moi de comparer l'eau. En plus, j'habitais à côté, j'habitais dans le nord de la France, à côté d'un canal, à côté d'une grande prairie qui était régulièrement humide. Enfin, donc moi, c'était mon terrain de jeu, et d'imaginer que ça allait se retrouver dans cette sorte de manette là compressée pour rentrer dans un réservoir. Et vraiment cette phrase m'a frappée, et je crois que à partir de ce moment-là, j'ai eu la conscience inconsciente, j'étais pas capable d'en être consciente à ce moment-là, mais il a été acquis tout de suite que rien n'était immuable, que ce que je croyais vraiment comme faisant partie d'un ensemble immortel, eh bien, pouvait changer à ce point-là, que les nuages allaient devenir comme une prise de carburant, quoi. C'était, voilà. Et du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est, je crois que, du coup, j'ai pas vraiment eu à faire de deuil. Parce que c'est comme si j'étais née un peu comme Obélix dans sa marmite. J'étais un peu tombée dans la marmite toute petite. Et je crois que c'est ce que vivent déjà les enfants depuis déjà pas mal de temps. ils naissent dans cette prise de conscience. Donc, quelque part, ils n'ont pas de deuil à faire. Et un autre chose, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être très démoralisant quand on s'en rend vraiment compte. J'ai un ami qui est devenu aveugle pendant 6 mois, du jour au lendemain. Et c'est en recouvrant la vue qu'il a compris le lien, en fait. Quand il a réalisé vraiment les impacts du changement climatique, eh bien, il a eu une cécité, une réelle cécité, de pas pouvoir affronter la vision que ça nous promet. Et c'est vrai qu'elle est terrible. Et donc, lui aussi, on a fait sa carrière hein, depuis des années. Et mais ce qui se passe, c'est que aussi dure soit la prise de conscience, la vie est longue. Et on a quand même envie de rigoler, d'aller voir ses amis, de faire la fête, etc. Donc, on va transformer toute sa vie, finalement, pour, quand on a vraiment eu la prise de conscience, on va faire la fête écolo, et puis, on va boire du vin, mais peut-être local et biologique et naturel, et voilà. Et ça change tout parce que ça permet de rentrer dans l'action. Et puis c'est le milieu de la transition est un milieu extrêmement conscient mais aussi extrêmement joyeux, et alors que le milieu qui ne bouge pas, les entreprises traditionnelles et sont des milieux qui sont très peu conscients, en tout cas dans leur direction, dans leurs objectifs, est très triste en même temps. Je veux dire, on compte plus les burn-out, les cas de stress, de dépression. La dépression est quand même devenue la première cause d'incapacité au travail. C'est quand même fou. Donc voilà. Donc il y a eu je pense que moi, cette étape-là, elle a été très puissante. Ensuite, quand j'ai écrit Home, le film de Yann Arthus-Bertrand, j'ai interrogé quand même une grande partie des scientifiques de la planète. Moi, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais avec lui sur l'état des lieux du monde. Et puis, comme les photos d'Arthus, elles vont pouvoir photographier autant un monument religieux que des femmes dans un champ, que des stocks de bouteilles ou de voitures ou d'avions de guerre. Ça permet de parler de tous les sujets, quoi. Donc, ça faisait très, très longtemps que je me documentais comme ça sur tous les sujets. Et on arrivait à un constat extrêmement clair, ce qui était, c'est maintenant, on risque de dépasser les seuils les seuils qui font qu'on bascule dans un autre état thermodynamique global, ce qui veut dire que on n'a plus du tout la même terre. Il ne faut pas croire que si on dépasse ces effets de seuil et que le changement climatique s'emballe réellement, il est probable que les arbres disparaissent aussi, parce qu'on sera dans un autre état d'équilibre thermodynamique. Toutes les images un peu romantiques avec des arbres qui poussent sur des ruines et l'humanité disparaîtra, bon débarras, c'est très romantique en fait. Il risque d'y avoir plus que quelques bactéries et quelques méduses qui survivent. On est dans la... Quand on regarde les chiffres, on est bien plus que dans une crise sociale ou écologique lambda. On est dans une crise réelle de la biodiversité et qui est plus ample et importante que la plus grande crise qu'on ait jamais eue, qui est celle du Précambrien. Où là, plus de 95% des formes de vie ont disparu. Il y a des structures à ce moment-là qui étaient présentes, qui ne sont jamais réapparues. Et ça, c'est la seule crise qui a eu ça. Et en plus, elle est très similaire structurellement à la nôtre. Elle était aussi liée à un excès de carbone dans l'atmosphère. Donc voilà. Donc, on ne sait pas du tout quel peut être le visage de la Terre si le climat s'emballe. Donc, il faut vraiment pas croire que cet effondrement. Moi, je fais une digression, mais c'est. Il y avait un salon, le salon, j'ai adoré, le salon du survivalisme.
Je compte aller y faire un tour.
Mais il faut voir l'affiche du salon du survivalisme. C'est d'un romantisme absolu, quoi. C'est la cabane au Canada, etc. Et vraiment, et donc c'est ça, on a juste envie, ah bon, c'est ça, mais que ça s'effondre, super. Non, ça va pas être comme ça, ça va être très violent. Violent socialement, mais surtout écologiquement. On n'a peut-être pas de résilience possible. Donc, il faut absolument absolument, s'il est encore temps, il n'est pas dit que c'est pas déjà trop tard, restaurer ces équilibres socles de la planète.
Et qu'est-ce que tu imagines, toi, pour les années qui viennent, ou les quelques décennies qui viennent ? Difficile de prédire, mais qu'est-ce que tu pressens ?
On peut rien prédire. On peut, par contre, faire des scénarios. Dans les étapes clés, il y a eu justement le fait, après avoir écrit Home, de m'intéresser, de me dire, bon, est-ce qu'une autre économie est possible, envisageable, et maintenant ? Parce qu'on n'a plus le temps. Et ça, ça a été le grand déclic, parce que ce que j'ai découvert, c'est que non seulement c'était envisageable, non seulement cette économie avait déjà émergé, mais qu'en plus, c'est une économie de la beauté. Et ça, c'est une économie qui révèle vraiment les aspects positifs que peut avoir notre espèce. Une espèce ultra créative, et quand cette créativité est mise en lien avec le vivant, là, et la reconnaissance qu'on est une espèce vivante, là, on fait des prodiges. On est capable de créer des sols à flanc de montagne. On est capable de créer des sols à la frange des déserts. On est capable de mettre en place une zone humide là où il n'y avait plus que du bitume en quelques semaines. Et ça, c'est la puissance magique de l'être humain qui, lorsqu'elle est tournée vers l'extraction, vers la destruction, est catastrophique, et lorsqu'elle est vers le contrôle, la peur, et lorsqu'elle est tournée vers la reconnaissance de son appartenance avec le vivant et une vision positive de l'être humain, en lui faisant confiance, en ayant confiance dans les valeurs qu'il peut porter, sa créativité, là, on a quelque chose de fabuleux. Et ça, c'est ce que raconte l'économie symbiotique, et ce qu'elle raconte, c'est que c'est en train d'arriver aujourd'hui. À partir de là, de ces scénarios, qu'est-ce qui peut se passer ? Moi, ce que je crois, c'est que ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce basculement thermodynamique global. Et que si on peut le faire, ce sera sûrement pas en faisant que diminuer nos impacts. Aujourd'hui, c'est tellement trop tard que ça revient à vouloir freiner un TGV avec sa semelle. Ça servira à rien, vraiment. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience que les équilibres planétaires, ils ne dépendent pas seulement des émissions de carbone. On regarde que les émissions de carbone. Ils dépendent de des écosystèmes qui en sont à l'origine. Et qui en sont à l'origine parce qu'ils développent des fonctions socles, justement de régulation des équilibres planétaires. C'est la fertilité des sols, c'est la photosynthèse, et c'est pas une photosynthèse de monoculture avec des forêts de pins. Non, c'est tout cet ensemble d'équilibres qui agissent écosystémiques, qui agissent à la fois au niveau local en régulant le climat local, en absorbant aussi et en réabsorbant du carbone dans les sols au niveau local, mais aussi au niveau global. Et donc si on arrive aujourd'hui à changer le paradigme économique global, d'ici le courant de la décennie, le tournant de la décennie, c'est-à-dire d'ici 2020, je pense qu'on est capable de gagner du temps sur l'emballement du changement climatique et de l'éviter. Parce qu'on aura alors le temps de mettre en place toutes ces solutions qui vont vers l'efficience, vers l'économie de la matière, de changer les modèles industriels, etc. Or, remettre les écosystèmes en place, c'est assez facile. C'est-à-dire que les villes sont des acteurs où il y a du capital. C'est là où il y a le capital sur la planète, c'est dans les villes. Elles ont de l'argent. Elles ont besoin d'assurer le métabolisme de leurs habitants, et ce métabolisme, il passe par des écosystèmes vivants. Et installer une station d'épuration végétale qui remet en place les écosystèmes au cœur, qui transforme du bitume en écosystème vivant, ça coûte moins cher qu'une centrale d'épuration classique. Donc, on a toute cette première phase, permaculture, agroécologie, ingénierie écologique massive, filière de biomatériaux massive, qui vont en plus avec l'essor des imprimantes 3D, parce que ça produit des résines qui sont, on a des résines à base de fibres longues qui sont toutes, enfin, et de résines plastiques végétales qui permettent aujourd'hui de faire des objets au niveau local avec des matériaux locaux. Donc, ça va tout à fait avec la nouvelle révolution industrielle. Et si on la combine avec ce passage, probablement à plus long terme, parce que c'est très difficile de changer les modèles économiques et industriels, de l'économie circulaire, de l'économie de fonctionnalité, qui est en fait d'avoir accès aux objets et non pas de les posséder, et puis de penser uniquement modulaire, composants interopérables pour qu'ils puissent passer d'un objet à l'autre, voire d'une chaîne de production à l'autre. Alors là, je pense qu'on a la possibilité de faire face aux très grandes crises qu'on va avoir vers 2025-2030, où là, toutes les crises convergent. Crise des ressources, crise sociale, crise climatique, crise de l'eau, enfin voilà. Donc, c'est ce changement, pour moi, le plus important, c'est de faire ce changement de paradigme économique, de montrer qu'on a une nouvelle économie, ultra efficiente en plus, qui nous raconte des nouvelles voies de prospérité, qui nous offre un nouvel imaginaire de l'humain, là, dans les 2-3 ans qui viennent. Si on n'arrive pas à faire ça, je pense qu'on prendra de plein fouet non seulement les effondrements, mais le manque de sens qu'il y a localement dans nos sociétés, qui fait que même si on est beaucoup à avoir changé individuellement, on n'a pas fait cette prise de conscience au niveau global et au niveau de la société. Et du coup, on va prendre les crises. Ça veut dire ces crises, ça veut dire des migrants, ça veut dire plus de moyens publics lorsque des inondations vont arriver, des sécheresses, etc. Donc il risque d'y avoir des replis sur soi et des tendances de vote extrême, comme il y en a déjà, qui risquent de s'accentuer sur le long terme. Parce que le premier réflexe peut être la solidarité. Mais quand c'est toujours comme ça, il peut y avoir aussi l'usure, le phénomène d'usure, comme par exemple on le voit à Calais. Moi, je suis originaire de la ville de Calais. Ça dure depuis 20-25 ans, cette histoire. Et ça s'est cristallisé au bout de finalement les vrais problèmes, au bout finalement de 18-20 ans, de vraiment ras-le-bol. Ça a mis du temps. Mais au bout d'un moment, la solidarité, elle joue plus si on va trop loin.
Et du coup, est-ce que les principes de l'économie symbiotique, selon toi, fonctionnent même à l'échelle démographique où on est maintenant et où on sera dans les années à venir ? Ouais ?
Oui, a priori, ils fonctionnent. L'économie symbiotique, c'est une construction logique à partir de l'observation de l'existant. Le problème, c'est que les nouveaux modèles, ils ont été très, très peu étudiés d'un point de vue académique. On n'a que des données de professionnels. Quasi. Donc, pour répondre précisément à la question, il faudrait des chiffres qu'on n'a pas. Ou que si on a, il faut les regrouper, etc. Ce serait important d'ailleurs d'avoir des budgets de recherche là-dessus. Donc, je ne peux pas répondre à la question sûre et certaine. Clairement, quand on agrège en fait les facteurs de. Quand on agrège les gains réalisés par ces modèles, les modèles qui sont sur cette logique, on arrive à des gains qui se cumulent, c'est-à-dire qui s'additionnent, et puis des gains d'efficience qui se multiplient. C'est-à-dire que vous gagnez des facteurs 10 d'efficience de la matière à certains endroits, 5 à 10 aussi à un autre, et sauf que dans la chaîne économique à laquelle ils appartiennent, ils se multiplient. Et donc, du coup, on arrive à des facteurs synergiques qui sont de l'ordre de facilement de 80. C'est, franchement, le peu de données qu'on a quand je fais les calculs, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc, on peut largement dire qu'on ait une diminution de consommation de matière pour les mêmes services supérieure à 90% de diminution. Largement. Je pense qu'on, 90%, ça veut dire un facteur 10 de diminution. Je pense qu'on est à des facteurs, comme je disais, plutôt même à deux chiffres.
Du coup, quand t'as commencé tes recherches sur l'économie symbiotique et quand t'as écrit le livre, quelle est l'intention vraiment derrière ? Est-ce que c'est une volonté de participer à créer un nouvel imaginaire aussi, pour rassembler, pour emmener les gens, pour voilà, donner de la puissance d'action, ou c'est autre chose ?
Alors déjà, c'était le partage d'une découverte, parce que si ce que j'étais en train de découvrir que toutes ces logiques qui apparaissent et qui semblent si différentes, en fait, c'était la même économie et qu'en plus elle fonctionnait comme la symbiose dans le vivant. Donc ça, c'est qui est le mécanisme le plus puissant et en plus ça me révolutionnait mon image de l'homme. Et donc il y avait un besoin de partage. Parce que d'abord, c'était si jamais je ne me trompais pas, c'était énorme. Donc, il fallait absolument le dire. Si je me trompais, ben, comme ça, au moins, je le saurais. Donc, voilà. Et puis cet enthousiasme, cette vision enthousiasmante de l'être humain que cela donne, c'est quelque chose qui est tellement fort que vous ne pouvez pas le garder pour vous. Et par contre, en effet, quand il y a une stratégie très claire et que j'affiche très clairement depuis longtemps, c'est changer le paradigme économique mondial avant 2020. Il faut qu'on change ce paradigme économique mondial là, maintenant, dans les années qui viennent.
Mais alors, du coup, moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant et que ça crée effectivement un idéal qui reste en partie théorique dans sa globalité, mais ça me paraît faire abstraction de quand même une chose qui est importante, c'est la concentration des richesses et des pouvoirs. Et du coup, comment aller au-delà de ça, quoi ?
Alors ça, c'est le gros problème. Donc il y a une concentration. Alors ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est la concentration des richesses et des pouvoirs, elle est dans les villes. Or, les villes peuvent être les premiers lieux de réinvention, justement en réintroduisant les écosystèmes dans les villes, d'une façon et en permettant d'autres modes de gouvernance. C'est plus facile d'aller voir son maire que son président de la République. Donc ça, c'est et encore plus que le président de l'Europe, du Conseil européen. Donc c'est bien les villes qui ont ce où est logé le capital. Elles l'ont pas forcément dans les mains, mais c'est bien là qu'il se trouve. Donc les villes seront à mon avis le premier point de réinvention avec l'agriculture, mais les villes ont un rôle à jouer très fort, y compris pour la structuration de l'agriculture avec des filières courtes. Le problème, c'est que, en effet, on a une concentration des pouvoirs décisionnels au niveau législatif réglementaire, qui est en quelques mains. En gros, le Sénat américain, l'OMC, la Commission européenne. C'est quand même, on peut dire à peu près tout avec, la Russie et la Chine. Ce qui fait que les lobbies n'ont plus que quelques, il y a plus que quelques portes en fait. Il y a plus de multiples portes à franchir. Il y a quelques portes bien ciblées. Donc ça facilite le travail des lobbies. Il se trouve aussi que la concentration économique du pouvoir économique est extrême. On a la dernière étude qu'on a sur le sujet à ma connaissance, c'est celle de 2007 dont je parle dans mon livre, qui montre que en fait vous avez environ 140 multinationales dans le monde qui contrôlent près de l'ensemble des 43 000 autres par des jeux de présence au conseil d'administration et de parts. Et elles contrôlent le pouvoir décisionnel. Donc, 143 d'un côté, entreprises au niveau mondial, avec ce poids-là au niveau mondial et quelques lieux de réglementation, c'est incroyable. C'est-à-dire que ça tient dans un avion, tout ça, quoi. C'est juste fou. Et c'est des autoroutes pour le lobby. Donc quand, si on veut y aller, si on veut la transition par la réglementation, on n'y arrivera pas. C'est comme si on allait à vélo sur une voie express, quoi. C'est même très dangereux. C'est épuisant. Et donc voilà. Donc ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème, et ça explique pourquoi, au niveau réglementaire, en ce moment, on perd toutes les batailles. Le glyphosate,
les états généraux de l'alimentation.
Les états généraux de l'alimentation. Trustés par, voilà. L'énergie, enfin tout ça, on perd toutes les batailles au niveau réglementaire. Par contre, regarde, ne serait-ce que les chiffres de l'alimentation bio, ils ne cessent d'être en croissance. Ça fait 10 ans hein, maintenant qu'on est en crise, hein, 2008, la crise de 2008-2018, ça fait 10 ans. C'est une croissance à 2 chiffres depuis 10 ans. On est à peu près à 14%, je crois, de croissance en moyenne par an. C'est énorme. Ouais. Donc, si vous voulez, les comportements changent, les modèles économiques changent, le nombre de gens qui vont dans la transition, qui changent de métier, qui n'en peuvent plus, qui cherchent à aller d'un système à l'autre, d'un système économique et social à l'autre, on ne les compte plus. Le nombre de villes qui commencent à inscrire ça dans leurs actions, on ne les compte plus. Antoinette Gull, qui est adjointe à la mairie de Paris, sur l'innovation sociale, économique et l'économie circulaire, elle vient de recevoir le prix européen de l'innovation politique. Qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit la ville comme, et son rôle d'élu, comme être animateur local pour permettre aux initiatives et aux acteurs qui font la ville d'émerger et de pouvoir agir. Voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. Et c'est c'est une économie qui crée ses pouvoirs productifs à partir du local, et donc en structurant ensemble ces coopératives énergétiques, ces coopératives numériques, ces data centers coopératifs, ces fermes coopératives locales, ces supermarchés coopératifs locaux, voilà. Et voir ces entreprises de voitures à partager locales, voilà. Ça, c'est possible aujourd'hui.
Alors, sur un sujet parallèle, qu'est-ce que tu penses de la morale de l'éco-citoyenneté et de ce dont on parlait hors micro, des petits gestes, etc. Alors, je trouve que c'est intéressant, c'est un point qui est quand même central dans les discours aujourd'hui.
Mais je pense que ça, bon, c'est vrai que ça fait longtemps aussi que je disais ça. En 2007, j'avais fait une enquête en fait sur les positions des candidats à la présidentielle sur tous ces sujets, et y compris les lobbies d'ailleurs, hein, puisque c'est très lié. Et je disais, il faut arrêter de délocaliser la responsabilité sur le consommateur. Et je pense que c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est vouloir couper le robinet pour se laver les dents. C'est là aussi, c'est vouloir freiner un TGV et avec sa semelle, quoi. Recycler sa capsule Nespresso, c'est voilà. Non mais c'est Cyril Dion a une très belle image. Il dit c'est un peu comme si je dis moi je travaille chez Monsanto mais j'y vais à vélo, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un état critique et on a besoin. En fait, plus on sera d'acteurs à s'engager. C'est pas facile, hein, la transition, elle n'a pas encore d'argent, etc. Mais mieux ce sera, et c'est un milieu très heureux et très solidaire. Et en effet, les petits gestes, pour moi, c'est bien, hein, il faut les faire, hein, je dis pas, hein, mais c'est un peu déplacer le projecteur, hein, pour pas le mettre sur les vrais problèmes. Quand vous savez que manger un steak de viande, c'est l'équivalent de 10 bains. 100 grammes de viande, c'est l'équivalent de prendre 10 bains. Bon, ben voilà, enfin, vous... Enfin, voilà.
Et du coup, qu'est-ce que ça... Par quelle phase t'es passé à force de travailler sur tous ces sujets ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de colère, comme je peux imaginer ? Parce que enfin, c'est une réaction normale. Et comment ça s'est exprimé chez toi ?
Alors, en effet, je me suis rendu compte, j'en étais pas consciente, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de colère. Et d'ailleurs, pour écrire vraiment mon livre, il a fallu que je la dépose. Celle-là, en fait, le temps que j'avais encore cette colère en moi, je pouvais pas écrire ce livre. Et ouais, il y avait d'ailleurs une chanson que j'avais. J'ai souvent eu des, quand j'écrivais des musiques très très différentes, hein, de styles très très différents, mais qui sont venues comme s'imposer pour chaque écriture. Et c'était They Don't Care About Us de Michael Jackson, désolée pour l'accent, mais c'est vraiment c'est un cri de colère, cette chanson. Et voilà, et maintenant je crois que je l'ai, oui, il y a toujours de la colère quand on voit, quand on voit par exemple que les oiseaux disparaissent à ce point, les insectes, 80% des insectes ont disparu, quoi. Encore, je sais plus combien d'espèces en disparition d'oiseaux, et que on se demande encore si il faut laisser les on est à Paris ici, donc les berges de la Seine à la circulation automobile, alors que la biodiversité est en train de s'effondrer et que chaque mètre carré est un refuge pour cette biodiversité. Moi, ça me remet en colère, quoi. Mais au fond, oui, quelque part, elle s'est transformée. C'est un bon moteur, la colère, hein. Ça oblige à créer.
Et quel est ton rapport avec la politique ou les politiques?
Sincèrement, je ne crois pas aux politiques nationaux, parce que je crois qu'ils ne peuvent plus bouger du fait de la structure du pouvoir aujourd'hui au niveau international. Donc en fait, ça pose des vraies questions à long terme, cette histoire. Par contre, je crois énormément au pouvoir politique local. À Copenhague, qui était une des COP les plus importantes sur le climat de ces deux dernières décennies, qui avait cristallisé énormément d'espoir, c'était en 2009, et qui s'est soldé sur un échec, une feuille blanche, hein, qui n'avait jamais, s'était jamais produit de mémoire de l'ONU. Les maires ont lancé un manifeste en disant « Chers collègues, si vous ne savez pas faire au niveau national, venez nous voir, on sait faire, nous, au niveau local. » Et voilà, je crois qu'ils ont tout dit ce jour-là.
Et dans ta vie personnelle, est-ce que tu essayes de convaincre les gens? Comment tu t'y prends pour parler de sujets que parfois les gens ne veulent pas entendre?
Non, moi je trouve ça terrible, parce que justement, en fait, quand on sort du milieu écolo, on est tout le temps en train de vous parler d'écologie, parce que la plupart des gens culpabilisent. En fait, vous entrez dans la pièce et dites, oh, mon Dieu, j'ai pas fermé la lumière, j'ai un emballage qui traîne, ou je sais pas quoi. Donc tout le monde culpabilise, c'est atroce, alors que on vient pas du tout là pour ça. Et c'est ça. Donc, c'est comme si tout à coup toute la conscience écologique arrivait d'un coup, et du coup c'est atroce, parce qu'on vous parle d'écologie toute la soirée, mais dans le sens culpabilisant. Donc c'est très fatigant. Non. Bon, par contre, c'est vrai que mes enfants, par exemple, n'ont pas de... peuvent avoir des goûters emballés dans vous savez les enfin dans de la récupération des du papier, de la baguette par exemple, des choses comme ça. Donc ils sont obligés d'assumer une certaine différence, mais qu'ils assument très très bien. Mais eux, de temps en temps, je sais que ils évangélisent énormément. Alors peut-être que moi je m'en rends pas compte, hein, ça se peut, mais j'ai pas le sentiment. Je pense que c'est important de témoigner, si on vous le demande, etc. Mais de convaincre, ça, j'y crois pas.
Ok. Alors, autre question, qu'est-ce que tu peux me dire sur la dichotomie entre un monde qui est obsédé par la science et la technique et coloniser Mars vite, 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 et la réalité des enjeux et l'urgence des problèmes auxquels on fait face?
Étonnamment, l'économie symbiotique, même si elle fait énormément appel au vivant, si elle fait énormément appel au lien social, etc., c'est quand même une économie très technologique et de l'accélération. Parce que c'est une économie de l'information, en fait. Et dès qu'on est dans une économie de l'information, ça va très très vite. Mais, et de toute façon, on est dans un monde qui va de plus en plus vite, justement parce que l'information diffuse énormément et que de toute façon, on a basculé dans cette économie de l'information. Mais le temps est de nature différente. C'est-à-dire que lorsque vous avez... Imaginez on est dans une économie symbiotique là, maintenant. Eh bien, ça veut dire que dans vos bureaux, vous êtes peut-être probablement d'ailleurs proche de chez vous, vous êtes probablement dans des espaces assez conviviaux, tiers-lieux, coworking, etc. Et en face de vous, par la fenêtre, en fait, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des bassins avec des joncs, des iris, des nénuphars, des fontaines, des cascades qui épurent et oxygènent l'eau. Qui vient des eaux usées des habitats. Puis, en fait, devant vous, vous avez un pommier, un cerisier. Là, c'est le printemps. Peut-être que l'abricotier qui est là sort ses premières fleurs. Et donc, vous êtes dans ce temps-là, c'est-à-dire que vous avez votre smartphone, vous avez 5 rendez-vous dans la journée, peut-être avec des gens qui habitent à 10 heures de là où vous habitez. Mais en même temps, vous êtes dans un environnement qui vous contemplatif et qui vous régénère. C'est-à-dire que vous êtes dans une nature de temps différente. C'est un peu comme la méditation. Si vous pratiquez la méditation, vous vous rendez compte que ça dure combien de temps la méditation? Une méditation, ça peut durer 2 minutes. Mais ça vous régénère quasi instantanément. Et la nature de... C'est pas la quantité de temps, 2 minutes, c'est rien. Vous les avez toujours, les 2 minutes, à un moment donné ou à un autre. C'est la nature du temps qui est différente. Et c'est ça, en fait. Je trouve la chose qui est quand même absolument, prodigieusement différente et qui n'est pas appréhendable sans l'avoir vécu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne l'a pas vécu.
C'est un usage de la technologie différente aussi.
Oui, parce que en fait, aujourd'hui, toute notre technologie, on la met au service d'aller plus loin, plus vite, plus fort.
Augmenter l'homme.
Augmenter l'homme, voilà. Et puis, extraire, comme on est sur une économie extractive, extraire toujours plus. Mais extraire aussi la ressource sociale, toujours plus. Alors que là, quand on est dans une économie du lien, de la synergie, comme cette nouvelle économie, on va donner un autre usage à notre technologie. On va chercher justement à empuissanter ces écosystèmes vivants si efficaces. Donc ça va être tout bête, hein, ça va être des pompes, ça va être une pensée du territoire pour créer des microclimats, etc., complètement différentes, donc une technologie de permaculture, on va dire. Puis ça va être aussi les technologies au service du lien social, de la diffusion des idées. Donc le numérique a une importance extrêmement forte. Mais il faut surtout pas voir l'industrie du numérique telle qu'on l'a aujourd'hui, qui rassemble le pire du 19e et du 20e siècle réunis. Il faut vraiment voir que le numérique peut aussi faire sa révolution totale au niveau social et au niveau matériel de la matière. Je parle pas seulement de l'Internet, hein, qui pose aussi des gros problèmes démocratiques tels qu'il est géré aujourd'hui. Je parle aussi de ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire le matériel informatique, avec quoi est fait votre smartphone, par exemple.
Mais il faudrait aller prêcher l'économie symbiotique dans la Silicon Valley, quoi.
Moi, je vais vous dire, je pense que ici, là où on est, demain, on pourrait créer, dans ce bâtiment, par exemple, il y a une cave. Ce bâtiment a des problèmes de chauffage. C'est un vieux bâtiment. On est au canot, hein, mais on... Exactement. C'est un endroit où on pourrait faire un data center, hein, qui chaufferait le bâtiment, qui serait possédé coopérativement par les entreprises ici, du quartier, etc., qui pourrait être le point de départ d'une plateforme numérique locale de codécision citoyenne, de e-commerce local, de savoir ce qui se passe au niveau des associations, etc. dans le quartier. Et voilà, on va pas aller évangéliser la Silicon Valley. Moi, je crois pas qu'il faut convaincre aujourd'hui. Faisons ici et témoignons que c'est possible. Et quand on fait, on a un objet concret. Là, on peut rayonner.
Est-ce que tu penses que la femme et les valeurs féminines ont un rôle particulier à jouer dans ce moment de bascule entre un ancien monde et un nouveau qui émerge ?
Le constat, c'est que beaucoup de pionniers dans l'écologie sont des pionnières. C'est difficile de savoir ce que c'est exactement le féminin, la femme dans une société qui a été patriarcale depuis des millénaires, donc on a un peu on a un peu perdu du et donc le féminin tel qu'on en parle aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le féminin réel et le masculin, et on peut dire la même chose du masculin, donc je trouve qu'on est vraiment dans une période de transition très très dure à ce niveau-là aujourd'hui. Maintenant, moi, c'est des sujets qui me passionnent et par lesquels je suis complètement rattrapée, en fait. Même si, c'est-à-dire que, en effet, j'ai quand même l'impression que il y a un vécu féminin du monde, pas dans le sens des femmes ou des hommes, hein, vraiment féminin, dans le sens où les valeurs du soin, de la fertilité, de l'harmonie chez soi, autour de soi, sont très très importants, en fait. C'est un des moteurs de cette économie. En fait, c'est drôle parce que l'économie symbiotique, vraiment, son motif, c'est la spirale. C'est comme si on avait le cercle féminin et la ligne masculine réunies. C'est-à-dire le cercle qui fait attention à protéger, à harmoniser et qui fait attention à son cœur, hein, donc et la ligne du progrès, de l'inventivité, etc., très, on va dire, très masculine, et qui permet de déformer le cercle pour faire une spirale qui à la fois se régénère et évolue, en fait.
Comment est-ce que tu cultives la joie dans ta vie malgré, voilà, tout ce qui se passe et
Mais en fait, je crois que sincèrement, les gens avec qui on travaille dans cette économie au quotidien c'est tellement enthousiasmant, la qualité humaine, elle est évidemment, il y a des problèmes comme partout. On peut avoir des problèmes de collaboration absolument terribles, très durs, mais quand même, on est dans un milieu qui porte, qui est quand même enthousiasmant. Donc, et puis. Plus on rentre dans cette logique, plus on se sent faire vraiment partie du tout vivant. Et du coup, c'est quelque chose qui est... Ces moments de plénitude, hein, qu'on peut avoir à goûter les saisons, finalement, la nature risquant de disparaître ou enfin, et en tout cas, s'affaiblissant tant... On en voit toute sa préciosité et je pense qu'il y a il y a des vrais sentiments de plénitude de se sentir faire partie de ce tout là.
Et pour revenir finalement au risque d'effondrement, est-ce que tu as déjà envisagé ou est-ce que tu envisages de vivre différemment, de quitter Paris?
Ah ben moi, un de mes projets, c'est de construire en effet un village symbiotique. À la fois, donc forcément, c'est difficile à créer en pleine ville, donc plutôt dans un lieu, mais pas trop loin de la grande ville, et surtout qui puisse l'irriguer et qui soit très rayonnant. C'est-à-dire avec un dispositif où on peut vraiment partager, observer, communiquer toute la mise en place de ces pratiques-là. Donc ça me permettrait à la fois d'avoir un environnement de vie tel que j'aimerais bien l'avoir, de mettre concrètement ça en place et de pouvoir aussi démontrer. Et puis, oui, au quotidien, de le vivre, ça, ça me plairait bien.
C'est un beau projet. Mmh. Je serais ravie de visiter. merci beaucoup, Isabelle. C'était super.
Merci.
Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belaouel, mixé par Paloma Colombe. Si vous voulez soutenir Présage, le mieux est de mettre 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez aussi partager les épisodes, les commenter, vous inscrire à la newsletter sur le site présage.fr. L'occasion aussi de retrouver des liens et des ressources pour approfondir les différents sujets évoqués. À très vite.